Jésus dans la gloire à travers le mystère de la croix. Et Jésus, source divine, dans son sacerdoce, dans sa médiation d'amour à l'égard de toute l'Église, à l'égard de tous les hommes. Puisque c'est cela qu'on doit regarder aujourd'hui. Avant d'entrer dans le mystère de l'Église, je lis cette question à propos de la messe. En solitaire des Chartreux, vous avez dit pour justifier que l'Eucharistie est avant tout le fruit d'une contemplation du Christ. Pouvez-vous préciser cela? Il me semble néanmoins que la manne établie pour l'Eucharistie soit le corps du Christ, soit que le corps du Christ est nourriture des hommes. Il faut donc qu'il soit présent pour la recevoir. Oui, ça ne s'exclut pas. On va dire un mot sur cela. C'est bien de revenir un instant sur l'Eucharistie. Vous comprenez bien que forcément, on ne peut donner que certains aspects sur ce mystère sur lequel on doit revenir tout le temps. Il faudrait maintenant, voyez, regarder d'une façon pratique comment nous préparer à l'Eucharistie et quels sont les fruits de l'Eucharistie. Comment nous préparer à l'Eucharistie? Le lavement des pieds. C'est très important ce geste de Jésus, du lavement des pieds. C'est pas suffisant, la parole. Il y a le geste. Toujours, hein. Habituez-vous, quand vous lisez l'Écriture, de toujours voir la parole et le geste. Pour comprendre comment tout l'homme est engagé dans la foi. Ça nous prend dans tout notre être. Et on a peut-être trop vu uniquement la parole et pas assez le geste. Ce qui explique combien on a de la peine aujourd'hui à entrer dans le mystère des sacrements. Parce que les sacrements ne se peuvent se comprendre qu'à travers les gestes. Ce sont les gestes du Christ, ces sacrements, pour nous. Des signes pratiques. Le geste est un signe pratique. Et les sacrements sont des signes pratiques qui engagent notre vie, qui engagent notre foi et qui demandent cet engagement avec le Christ. L'alliance. L'alliance n'est pas simplement une parole. L'alliance implique un engagement. Et le geste réclame un engagement. Un geste d'amour. Un lavement des pieds. C'est tellement actuel. Et c'est tellement fort, ce geste. Jésus explique que c'est le Maître et le Seigneur qui fait ce geste. Voyez, les idéologies athées opposent au moins certaines, presque toutes, opposent le maître, le seigneur et l'esclave. Vous retrouvez ça partout. Dialectiquement, il y a une opposition. Jésus a répondu prophétiquement, comme du reste dans tout l'évangile. À toutes les idéologies athées, il y a la réponse de Jésus. Puisque ils sont nés de chez nous. Et toutes ces idéologies athées qui sont nées depuis 150 ans sont nées de l'Europe. Donc, du berceau du christianisme. On n'en peut rien, mais le christianisme est né. Il est né à Jérusalem, à la croix, en dehors de la ville. C'est quand même très significatif. Jésus est mort en dehors de la ville, le lieu du crâne, c'est-à-dire la reprise radicale avec toute l'humanité, au-delà de ce que représente Jérusalem, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ qui est la nouvelle Jérusalem. Et c'est à partir de la blessure du cœur que connaît l'Église. Et très vite, l'Esprit Saint pousse Pierre à quitter Jérusalem. Il n'y a plus de place pour lui. Il n'y a plus de place pour l'Église naissante. Car il n'y avait plus de place pour Marie à la naissance de Jésus à Bethléem. Il n'y a plus de place pour cette petite église naissante à Jérusalem. La lutte est trop forte. Il n'y a plus de lieu, d'espace vital. Il faut quitter et aller à Rome. C'est extraordinaire ce passage. Mais il faut comprendre ce que ça peut représenter pour la mentalité d'un Galiléen. C'est fou. C'est complètement de la folie. Ça, c'est l'Esprit Saint. Et notre Europe a été le berceau du christianisme. Et de cette Europe chrétienne, progressivement, hélas, est née ces idéologies athées. Et au cœur de ces idéologies athées, il y a cette dialectique d'opposition du maître et de l'esclave. C'est assez étonnant que Jésus, sous le souffle de l'Esprit Saint, lui sait, dans sa science infuse, il sait qu'est-ce qui enveloppe tout le mystère de l'Eucharistie. C'est un mystère d'amour. Le geste du Christ, c'est le Maître, c'est le Seigneur qui prend le tablier de l'esclave et qui fait le geste de l'esclave et qui lave les pieds de Pierre. Et Pierre ne comprend pas. Et Pierre se révolte. Parce que pour lui, le maître doit rester le maître. Il ne comprend pas que l'autorité du Christ, c'est une autorité d'amour paternel, toute d'amour. Et cette autorité toute d'amour doit être capable de descendre plus bas que le plus pauvre, le plus petit, le plus misérable. Jésus lave les pieds à Judas au moment même où Judas trahit. Pierre n'aurait pas fait ça avant le lavement des pieds. Avant la croix, Pierre n'aurait pas fait ça. Pierre le fera après, pour suivre Jésus. Parce que Jésus l'a fait. Il y a un renversement complet de ce que représente l'exercice de l'autorité. Ce passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. Et c'est du côté de l'autorité qu'on va voit cette transformation complète. Et ça ne peut se comprendre que dans l'amour. Exercer l'autorité sans pouvoir, sans aucun pouvoir, en abdiquant tout pouvoir. Voyez le mystère de l'Eucharistie qui fait appel à la toute-puissance de Dieu au service de l'amour. Yahvé, Dieu des armées, dans l'Eucharistie, se désarme complètement lui-même pour être la nourriture du pauvre, pour être relative au pauvre, pour être relative au pécheur, à Judas. La miséricorde du pardon. La miséricorde n'est parfaitement miséricorde divine que dans le pardon. Et Jésus pardonne à Judas dans le lavement des pieds. Et Jésus pardonne à chacun de ses disciples, de ses amis, pour qu'eux pardonnent, pour qu'eux entrent dans cette ultime purification. On est pur. Notre âme n'est pure qu'à l'intérieur du pardon du Christ. Nous ne sommes pas purs par nous-mêmes, à cause et conséquence du péché originel. On n'est pur que dans le pardon du Christ. Ne cherchez pas votre pureté propre. Cherchez à être pur dans le pardon du Christ. C'est tout à fait différent. C'est une pureté contemplative. Ce n'est plus une pureté morale. C'est une pureté dans la gratuité de l'amour. Et c'est cette pureté-là qui est nécessaire pour s'approcher de l'Eucharistie. La grande purification quand on va communier, c'est demander pardon à tous ceux qui nous ont blessés. C'est demander pardon à tous ceux qui nous regardent mal et qui ont de la haine pour nous. Et ce pardon, nous ne pouvons le vivre qu'à travers le cœur du Christ, et que dans le cœur du Christ. Nous devons comprendre cela, puisque Jésus nous demande de continuer ce geste. Nous devons le faire les uns pour les autres. Préparation à l'Eucharistie. Le geste de la purification, le geste du lavement des pieds. Jésus nous montre que lui est maître dans l'ordre de l'amour, qu'il exerce autorité en Père. C'est un service d'amour. Et ce service d'amour va jusqu'au lavement des pieds. Le geste de l'esclave, de celui qui est le serviteur et qui accepte d'être serviteur dans l'amour, dans la miséricorde, dans le pardon. Et le maître et l'esclave peuvent être un à cause de l'amour et grâce à l'amour. C'est l'amour qui fait cette unité. Tandis que dans l'opposition des idéologies athées, il y a une opposition entre le maître et l'esclave, parce qu'on ne voit plus l'amour. Dans leur conditionnement psychologique, le maître et l'esclave s'opposent. J'allais dire, dans leur sincérité psychologique, le maître et l'esclave s'opposent. Il faut ce dépassement d'une vérité dans l'ordre de l'amour pour que le maître et l'esclave s'unissent. Ils font œuvre commune. C'est très important pour nous de comprendre cette disposition ultime à l'Eucharistie. Ce qui à la fois distingue et unit les deux Pâques, c'est le lavement des pieds. Il faut souvent y revenir, hein. Et vous en vivre de ce lavement des pieds. vous se laver les pieds les uns les autres. Alors évidemment, on ne fait pas le geste visible, sensible, voyez ça, si on faisait ça, ce serait... Mais le petit geste que l'Église demande, qui montre notre lien et notre paix, c'est le geste du pardon. Et le fruit de l'Eucharistie, c'est la charité fraternelle. Alors là, entrons un peu dans ce fruit de l'Eucharistie. C'est Jésus qui se donne d'une manière telle qu'il veut l'unité de vie avec nous. Tout ce que Jésus vit à la croix, nous devons le vivre. C'est pour nous. La grande prière du chapitre 17 dans Saint Jean, c'est cette prière qui doit être notre prière. Et elle est notre prière quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc nous devons vivre cette soif de contemplation. Nous devons vivre l'adoration du Christ qui fait qu'il s'offre entièrement pour glorifier le Père en adorant et en se donnant à ses frères, aux hommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je crois que c'est toujours ces trois grands aspects que le mystère de l'Eucharistie doit nous faire vivre. Soif de contemplation, adoration, charité fraternelle. On ne peut pas vivre le mystère de l'Eucharistie sans que fleurisse au plus intime de notre cœur cette soif de charité fraternelle. On ne peut pas vivre le mystère de l'Eucharistie sans qu'il y ait en nous une soif d'adoration. On ne peut pas vivre le mystère de l'Eucharistie sans qu'il y ait en nous cette soif de contemplation. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. On veut glorifier le Père. Et on glorifie le Père par cette soif d'adoration. L'Eucharistie, c'est le sacrement par excellence. Le sacrement des sacrements, sacrement d'amour, qui constitue l'Église. L'Eucharistie est donnée dans l'Église. Si on est catholique, c'est pour vivre de l'Eucharistie. Parce que c'est vrai, théologie athée. Et c'est vrai. Il y a sept idéologies athées et il y a sept visions fausses de l'Église. Et nous sommes au milieu de tout ça. Il y a des visions d'Église qui sont purement historiques, dans un positivisme historique. Il y a des visions d'Église qui sont purement politiques, purement sociales, et qui nous mettent complètement en dehors de l'Église. Ce sont des caricatures de l'Église. Le démon est un artiste de caricature, et l'Esprit Saint, c'est l'artiste de l'amour. C'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'il y a des caricatures de l'Église. Visible, parce que le démon n'en rate pas une. Il est notre accusateur. Il accuse l'Église. Il ne peut pas supporter l'Église. Alors il essaie par tous les moyens de donner des caricatures de l'Église pour empêcher les hommes de bonne volonté de découvrir l'Église. Et aujourd'hui, il faut bien le comprendre. L'Esprit Saint nous conduit d'abord au Christ. Il nous fait découvrir le Christ. En face de toutes ces caricatures, la première chose qu'on doit, c'est découvrir le mystère du Christ. Du Christ crucifié et glorifié. Du Christ vivant au milieu de nous. Présent dans les sept églises de l'Apocalypse. Et face à ces caricatures de l'Église, nous devons comprendre que c'est par la porte étroite de la blessure du cœur du Christ que nous devons redécouvrir l'Église. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes d'Église parce que le Christ le veut. C'est pas pour autre chose. Parce que le Christ à la croix est source de l'Église, du corps mystique. C'est toujours dans la lumière du Christ glorifié et crucifié, que nous devons regarder le mystère de l'Église, comprendre le mystère de l'Église, le mystère du corps mystique. Le Concile Vatican II nous rappelle, et ce serait très beau de le voir, toutes les préfigurations du mystère de l'Église, toutes les images, toutes les analogies que l'Esprit Saint nous donne pour nous conduire vers l'Église. Et parmi toutes ces analogies, il y en a une qui est particulièrement forte, c'est celle du corps mystique. Et dans la grande vision de saint Augustin, l'Église naît à la croix de la blessure du cœur du Christ. Cette vision étonnante de saint Augustin, qui est très très belle et qui est très forte. Il voit le geste, c'est encore un geste, le geste du Père, du Dieu créateur, plonge l'homme, Adam, dans la torpeur. Et de sa côte forme la femme. grande vision. Dans la Genèse, second récit de la création. La création de l'homme et de la femme, vue distinctement. Et saint Augustin voit, et ceci, ça fait partie du patrimoine de l'Église, voit dans ce geste ce qui va se réaliser à la croix. L'extase d'amour du Christ crucifié, nouvel Adam. La torpeur divine qui enveloppe Jésus dans sa contemplation d'amour, dans son extase d'amour. Et à partir de là, la blessure du cœur. Et à partir de la blessure du cœur, naît l'Église. La femme. Un des symbolismes de l'Église, c'est la femme. L'épouse du Christ. L'Église est épouse du Christ. Elle naît de la blessure du cœur du Christ. Et de la blessure du cœur du Christ jaillit les dernières gouttes de sang et d'eau. Sous le souffle de l'Esprit Saint. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, le sang et l'eau. Et c'est à partir de la croix que naît l'Église. L'Église, elle vient du Christ et elle retourne au Christ. L'Église n'a pas de sens par elle-même. C'est quand même très important de comprendre ça. La signification de l'Église, c'est le Christ. C'est pour ça qu'elle est épouse. Tout entière, elle vient de Jésus et elle retourne à Jésus. L'Église est toute relative à Jésus et à Jésus crucifié et glorifié. Si on regardait ça tout le temps, il n'y aurait plus de scandale, il n'y aurait plus d'opposition, parce qu'on regarderait l'Église de l'intérieur. Regarder l'Église de l'extérieur, c'est nécessairement nous vouer à ne rien comprendre. Vous voyez, comme quand on regarde à contre-jour, on ne voit plus rien du tout. Et ça, c'est la tentation permanente de l'homme. C'est plus une vision de croyant, ce n'est plus la vision de sagesse. Alors vous regardez l'Église comme un tout et vous la regardez comme une autre société. Que l'Église soit société, c'est très vrai, mais d'une manière toute différente que les autres sociétés. Que l'Église soit communauté, c'est très vrai, mais d'une communauté toutes différentes des autres communautés. Que l'Église soit peuple, c'est très vrai, mais d'un peuple tout à fait différent. Ce sont des citoyens du ciel. Ce sont des hommes qui sont nés de l'Esprit et qui sont appelés. Et c'est pour ça qu'il faut bien saisir cette comparaison très secrète, très intime, de l'époux et de l'épouse. L'Église est l'épouse du Christ. Et cette épouse, c'est le corps mystique du Christ. C'est très étonnant, ces deux comparaisons, ces deux analogies, celle du corps et celle de l'épouse, elles sont inséparables. Voyez, là encore, ce que je vous disais au point de départ, toujours la révélation nous donne diverses comparaisons, diverses analogies. Et nous devons, dans la foi, comprendre que cette diversité troisième grande analogie, c'est celle du temple. Saint Paul nous le dit. Hein. Et tout ce que disent les conciles et tout ce que disent les théologiens, c'est toujours pour que nous comprenions plus à fond l'Écriture. C'est pour expliciter l'Écriture pour nous. Et Vatican II, dans sa grande vision de l'Église, en Lumen Gentium, nous montre bien cette analogie de l'épouse et de l'époux. Cette grande comparaison, cette grande analogie du corps mystique et cette grande analogie du temple. On comprend pour le peuple d'Israël l'importance du temple. Alors, parce que le temple jouait un rôle si important, c'était un peuple religieux. Pour nous, ça dit beaucoup moins, parce que nous ne sommes plus très religieux. Notre culture n'allait plus du tout. C'est une culture laïque. C'est vrai, la plupart du temps. Dans les familles chrétiennes, il y a encore un certain semble du temple, mais très peu, hein. Le temple, c'est l'église, voyez, construite hein, par les mains d'hommes. C'est plus le centre du tout du village. Dans le temps, c'était comme ça. Il y avait la mairie et l'église. Aujourd'hui, il y a la mairie. L'église, on l'oublie de temps en temps. C'est très curieux hein, de voir la laïcisation qui touche directement à la question du temple. Et saint Paul, lui, parce qu'il vit encore dans un milieu religieux, montre que le Christ est la pierre angulaire de l'Église. Et la pierre angulaire permet la construction du temple. Et le temple se fond sur la pierre angulaire. Je crois qu'il faut réfléchir quelques instants sur ces trois comparaisons, parce qu'elles sont très belles. Toutes les trois nous montrent le mystère de l'unité de l'Église. C'est très étonnant que c'est ce mystère de l'unité qui est le plus en lumière. Une unité fruit de l'amour. L'unité qui provient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint rassemble toute la diversité des hommes et des cultures et des civilisations. Tout ça rassemblé dans le Christ. C'est par lui. C'est avec lui, c'est en lui, la grande prière qui est au cœur de la messe et qui termine tout le canon, qui termine donc toute la prière intime de l'Eucharistie. C'est par lui, c'est avec lui et c'est en lui. Alors je crois que nous avons là les trois grands aspects de l'unité. La comparaison du corps mystique montre l'unité du corps vivant. On sait qu'il y a une unité biologique, substantielle, dans le corps vivant. Et c'est peut-être la comparaison qui pour nous frappe le plus. Cette unité substantielle, cette unité qui provient de l'âme. C'est extraordinaire de voir que cette unité, nous l'expérimentons. Et nous l'expérimentons surtout quand nous commençons à connaître certaines fragilités. La maladie, quand on est obligé de vous couper un membre, on comprend que c'est pas drôle. Il y a une intégrité en nous. Il y a un sens de l'intégrité, un sens de l'unité sent la fragilité, la faiblesse. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Tandis que le sportif, il sent son unité d'une manière étonnante. Vous voyez ça, ceux qui font du ski, c'est étonnant de voir l'unité qu'ils ont à ce moment-là. Ils ne pensent pas à la diversité. Pas du tout. C'est l'unité. Quand l'Église est pleinement vivante, elle ne vit de son unité. Quand elle commence à connaître sa fragilité, elle vit beaucoup plus du pluralisme. C'est curieux. Le sens du pluralisme, c'est un sens de fragilité. Alors que le sens de l'unité, c'est le sens de la plénitude de la vie. L'analogie du corps mystique, hein, unité substantielle de vie avec Jésus. C'est ça qui nous est montré. Et c'est ça l'Église. C'est le mystère de l'Église. C'est intérieur. Ça ne peut se vivre que dans la foi. Et ça se vit dans la foi, dans l'espérance et l'amour. C'est par le Christ que se fait cette unité. Ce n'est pas nous. C'est Jésus qui l'a fait. Et Jésus est la tête. C'est lui qui dirige. C'est lui qui pense et qui contemple pour toute l'Église. Et nous sommes des membres vivants liés à Jésus. La comparaison du temps. C'est l'expérience de l'unité de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art par excellence, c'est l'église, c'est le temple. Une œuvre d'architecture religieuse. Une petite église romane. C'est dans une petite église romane qu'on a le plus le sens de l'unité. Et le temple est fait pour la prière et le recueillement. Et c'est vrai que dans une œuvre d'art, on s'aperçoit tout de suite du manque d'unité. Et quand l'œuvre d'art est parfaite, il y a une unité parfaite qui resplendit dans la beauté, dans l'harmonie. L'Église est une œuvre d'art, mais d'un art divin. Provient de l'Esprit Saint. Il y a une unité dans cette œuvre d'art de l'Esprit Saint. On a tous la même foi, la même espérance, le même amour. Et nous exprimons cela, et nous proclamons cela. C'est l'exigence de l'Église qui proclame son unité. Et qui dit son unité quand nous chantons le credo, quand nous récitons le credo, et nous aimons de le réciter pour mettre toute sa force à cette unité dans la foi. C'est bien au cœur de l'Eucharistie. Vous voyez, l'Eucharistie unit toutes ces comparaisons, il faut bien le comprendre, et nous les vivons dans l'Eucharistie. L'unité de foi sous le souffle de l'Esprit Saint, l'unité d'amour. Et enfin, la troisième comparaison, l'époux et l'épouse. Demeurez dans le Christ, dans l'amour, on demeure l'un dans l'autre. Et l'amour d'amitié connaît sa plus grande unité. Au sens visible et sensible entre l'époux et l'épouse, avec le ton des corps qui incarne l'unité de cœur et d'intelligence. Et l'Esprit Saint se sert de cette comparaison de l'époux et de l'épouse pour nous faire comprendre. pas de l'unité avec Jésus. C'est une unité libre d'amour. Jésus nous a choisis. Et c'est lui qui nous a choisis le premier. Il nous a choisis comme époux. Et Jésus attend notre réponse. Et qui est notre réponse d'amour? Au cœur de l'Eucharistie, c'est la communion. Pour que nous demeurions dans le Christ et que le Christ demeure en nous. Vous voyez comment ces trois grandes comparaisons auxquelles il faut tout le temps revenir. Ces trois grandes comparaisons du corps mystique, du temple, de la beauté du temple, de l'harmonie du temple, de l'unité du temple. Et puis, la comparaison d'époux et d'épouse sont au cœur de tout le mystère de l'Eucharistie. Et c'est vrai, la nourriture divine qu'est l'Eucharistie nous montre l'unité du corps mystique. Et elle fait cette unité du corps mystique. L'Eucharistie, c'est la grande liturgie qui nous montre l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui nous permet de proclamer notre unité de foi, non seulement par la parole, mais par le même pain, qui est le corps du Christ. Nous vivons dans l'unité d'amour par le corps du Christ. Et l'Eucharistie nous montre cette intimité avec Jésus. Il demeure en nous et nous en lui. Il faut souvent revenir, voyez, à ces trois grandes comparaisons qui nous montrent l'unité. Comprenez bien, ces trois comparaisons au niveau de l'expérience humaine sont tout à fait différentes. L'unité du corps, de notre corps, vivant, c'est une idée qui est différente chez l'enfant, chez l'adulte, chez le vieillard. Il y a trois modalités d'unité. L'enfant, il n'y pense pas, comme le sportif, qui est toujours un enfant. C'est pour ça qu'il a des audaces étonnantes. Il n'y pense pas. L'adulte, il commence à comprendre. Et il fait des exercices de gymnastique et de respiration pour maintenir son unité. Il en a besoin. Et le vieillard, il accepte de comprendre le poids de la diversité de ses différents organes. Il commence à moins entendre, à moins voir, à être fatigué quand il fait une route, besoin de s'asseoir, pas toujours debout, et ainsi de suite, voyez, il commence, il a le sens de la diversité. C'est curieux, je crois qu'il y a toutes les étapes de l'Église. Mais c'est un vieillard divin, l'Église. Et les vieillards d'Apocalypse, ils se rajeunissent par l'adoration. Ils jettent leur couronne pour être plus simples en face de Dieu dans l'adoration. Et l'Eucharistie nous apprend à adorer, à jeter notre couronne. Tout ce qui est, vous voyez, artificiel, jeter la couronne. Tout ce qui est artificiel pour être des pauvres en face de Dieu. Tout ce que nous avons gagné, acquis par notre travail, nous le livrons à l'Esprit Saint. Nous le donnons pour être des pauvres qui adorent. Et c'est vrai que la vieillesse permet d'avoir un sens de la pauvreté plus grande. ces trois unités, nous les retrouvons d'une manière étonnante dans le chapitre 15, Évangile de Jean. Elles sont présentes à la place du corps. On parle de la vigne. L'unité de la vigne. Ici en Bourgogne, c'est très bien. On comprend ça, on a le sens du vigneron. Vous voyez, le père est bourguignon, puisqu'il est vigneron. Il est vigneron. Et du bon vin, je vous affirme, parce que Dieu, c'est toujours très qualitatif. Et le vin du Cana est meilleur que le vin qui vient de Jésus, qui vient du Père, est meilleur que le premier. C'est extraordinaire. Le réalisme dans l'évangile de Jean.